Un été avec Philippe Solers, proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Troisième rencontre, 68, une histoire d'amour. Une des femmes que j'aime, par exemple, c'est 68, écrit Philippe Solers curieusement dans La guerre du goût. Et il s'en explique. Liberté, bien sûr, jeunesse, plaisir, un style de mai, sensuel, irréversible. Il y a bien un après et un avant 68. Mais lui, dans tout cela.
C'était pas spectateur, c'était pas journaliste, c'était pas observateur, c'était acteur. L'essentiel de son 68 est rarement dit. C'est recouvert, alors là aussi, comme Vichy, comme la guerre d'Algérie, comme le massacre de Katyn, où il faut 50 ans pour s'apercevoir que c'était pas les Allemands, mais que c'était les Russes qui ont fait ce charnier épouvantable, etc., etc. C'était avant tout des histoires physiques et individuelles, fortes, très fortes. Quelque chose a sauté brusquement. Le ministre des Sports, je ne sais pas quoi, vient inaugurer une piscine à Nanterre. Ça éclate sur le fait que les filles ne pouvaient pas rejoindre les garçons dans leur chambre. C'est là où un certain Cohn-Bendit commence à se signaler à l'attention. Le ministre fait un discours du genre « mince sana incorpore sano ». Tout à coup, tout le monde lui rit au nez et c'est parti. La police intervient. Personne ne s'attendait. Évidemment, la situation était mûre, comme on l'a dit après coup. Mais sur le moment, c'était totalement improvisé. Les discours politiques, les engagements Mao, etc., c'est extraordinairement relatif. Personne n'avait de discours vrai à proposer, sauf les situationnistes avec leur... Puis ceux qui reprenaient les slogans un peu surréalistes autrefois. Bon, mais en fait, ça a été extraordinairement personnel, 68. Ça a été un moment de liberté absolument considérable.
Oui, c'est intéressant que vous disiez que c'était quelque chose de personnel. Oui. On ne le dit pas souvent. On parle plus d'un mouvement collectif. Mais enfin, chacun a vécu en fonction de sa propre histoire.
Mais qui s'écrivent leur histoire personnelle. Mmh. C'est qu'ils parlent de leur enfance, qui parlent de leur adolescence, qui parlent de ce que c'est qu'une société qui explose et du rôle et de l'endroit où ils étaient, avec qui ils étaient. Moi, le plus souvent, j'étais avec une amie absolument délicieuse et on fumait du hashish toutes les nuits, vous comprenez. C'était pas bien et c'était splendide.
En France, depuis le 3 mai 1968,
dans un climat de désordre et de violence,
il n'y a plus d'État.
Vous trouvez ça normal ?
L'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens demandait rupture.
Soyons tout.
Alors, quel est votre vrai problème à vous? Exposez-moi votre cas.
De même que les adultes au moment où les Allemands sont rentrés à Paris se sont montrés ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des nuls. De même, pendant la guerre d'Algérie, l'armée s'est montrée ce qu'elle avait trop tendance à être en pénalisant le contingent. Beaucoup d'amis à moi sont morts ou ont été complètement perturbés. On va surgir. De même, en 68, on a vu à quoi ressemblait l'université qui est maintenant détruite. On accuse 68 d'avoir détruit tout. Voilà. La famille, la morale, le sexe, l'amour, l'université. Enfin, bon, voilà. En réalité, ça, c'est de la propagande. Ce sont des gens qui ont eu très, très peur et qui sont de retour et qui voudraient qu'on revienne en arrière. Il y a une phrase de Stendhal admirable dans la Chartreuse de Parme. Tout ce qui était vieux, morose, dévot, reprit le contrôle de la société, la direction même de la société. Donc la société, de temps en temps, celle du spectacle notamment, parce que les grandes années là de préparation sous-jacente, c'est évidemment 65, 66, 67, 68, une sorte d'explosion. Donc vous avez là des livres quand même fameux, notamment le plus fameux qui est La société du spectacle de Debord. Le mot spectacle Il faut comprendre que c'est le spectacle, c'est pas seulement la télévision, la radio, enfin le spectaculaire qu'on croit, c'est tout. C'est-à-dire le fait que désormais, à l'étape où nous étions déjà en 68, mais alors en ce moment à plein régime, vous êtes dans un monde artificiel où chacun est obligé de jouer un personnage de comédie. Et vous savez, l'auteur qui est le plus moderne, à mon avis, ça, je suis en train d'écrire sur lui pour l'Observateur, mais je viens de passer 15 jours d'ivresse, de fou rire et de liberté. Avec qui ? Avec Molière. C'est splendide, Molière. Eh bien, quelles sont les comédies que Molière écrirait aujourd'hui ? Tout le monde célèbre Molière, la Comédie française, ça, on le joue en costume, mais enfin, la puissance révolutionnaire de Molière, qui a été, comme vous savez, comme on évite de le dire le plus souvent, très protégé par Louis XIV, parce qu'on fait comme si... l'anarchisme de Molière, c'est admirable. Eh bien, moi, je vous propose des pièces nouvelles. Ce serait Le Président Gentilhomme, L'École des Mannequins, Les Précieux Ridicules, Le Banquier Fou, Tartuffe ou le Philosophe Imposteur, L'Avare Milliardaire, Le Philanthrope Hypocrite, Le Pédophile Archevêque, La Féministe Dévote, Les Musulmanes Savantes, Le Névrosé Imaginaire, Le Psychanalyste Malgré Lui, L'Artiste Ignorant, Le Trader Cocu, Les Plaisirs du Dalai Lama, L'Écrivain Inculte, et vous pouvez continuer comme ça. Voilà des pièces splendides que Molière écrirait aujourd'hui. Et ça aurait beaucoup de succès, parce que ce ne serait pas seulement les guignols. Les guignols, c'est pas mal, mais enfin, il faut aller plus loin. Il faut saisir les personnages de l'intérieur.
Donc 68 vous a surpris, comme tout le monde, et vous a réjoui. Et vous avez retrouvé beaucoup de ce que vous étiez déjà depuis le début des années 60. Vous nous avez parlé de votre entrée dans le monde littéraire, de
Jamais je n'ai marché. J'ai beaucoup marché dans les villes, hein. Beaucoup à New York, beaucoup à Paris, etc. Paris, beaucoup à Bordeaux, ville noire qui est maintenant blonde et ressuscitée. Jamais je n'ai marché dans une ville ouverte, suspendue, comme à Paris en ce moment-là. C'est pas tous les jours qu'on peut voir l'état dissous. Si on a une vague idée du fait qu'après tout, tout ça, ce sont des contraintes. Participer à cette expérience de la dissolution de l'État ou des beurs anciens. Enfin, écoutez, l'ORTF, il n'y a rien que ce sigle. Bon, eh bien, peut-être qu'on va restaurer, à travers France Télévisions, une sorte d'ORTF-UMP, si vous voulez, ou n'importe quoi. Bon, alors, c'est un très mauvais point dans mon dossier, parce que maoïsme, patati patata, mais maoïsme, c'était une façon tout à fait conséquente, le mien, très personnel. Je n'ai jamais fait partie d'aucune organisation. Jamais. Ça n'est pas mon genre. Mais qui était toutes d'ailleurs contaminées au plus haut point par le stalinisme antérieur. Mais l'histoire de la Russie, de Mao, ce grand criminel ahurissant, qui est vraiment thèse, antithèse, synthèse, Staline, Hitler, Mao. Mao, voilà. Bon, à ce moment-là, c'était la Chine, moi, qui m'intéressait. Et je suis allé après voir sur place, oui, en rêvant de ce que ce serait dans 30 ou 40 ans. Nous y sommes. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était pas question que la Chine soit en position d'être la première puissance économique mondiale. C'est fait. C'est en cours. Donc là, ce qui était intéressant, c'était d'attaquer le parti russe sur...
La vieillerie russe.
La vieillerie russe, russo-française, voilà. Ouais. Non, les cadavres dans les placards, c'est ça. C'est Vichy et Moscou. C'est réglé, dit-on. Il n'y a pas de jour où on nous en reparle et où l'ombre de Bousquet ne vienne frapper à la porte de l'Élysée en criant « Mitterrand, Mitterrand !» Voilà. Bon, quant à Moscou, le petit pâtissier Duclos, qui était fort, fort agité, faisait 22% aux élections présidentielles de 1969. 22%. Ce n'est pas rien. Donc après, vous avez eu, en effet, la résurrection du Front National et autres péripéties de ce genre. Mais à l'époque, le carcan, c'était ce qui traînait de vichysme en France, malgré De Gaulle, parce que ça a été aussi une fantasmagorie bien, bien réglée. C'est le fond. Il faut se méfier des Français. Hein. Il faut se méfier du fascisme français, du populisme, du fascisme français. Attention, attention. Il faut le sentir de loin. Et puis, il fallait le parti le plus puissant, c'était quand même le Parti communiste. C'était partout, dans l'université, partout. Comme ils ont eu peur, mon Dieu. Et les coups portés, là, sont irréparables. Impardonnables. Donc, je suis mort pour l'université vers 1968. Ça. Heureusement que je peux squatter ma femme dans une université américaine en logeant chez elle en passant. Donc, ça a été personnellement, extraordinairement prometteur. Ça a été une révolution, une vraie. Pas une révolution ratée, une révolution.
Contre la poésie aragonaise, demander rupture, revue d'action surréaliste.
Le courrier du Vietnam, journal des combattants vietnamiens.
Tout le monde comprend, évidemment, quelle est la portée des actuels événements universitaires, puis sociaux.
Il se passe quelque chose.
Et pour vous, Mao, à l'époque, était quelque chose de très important.
Mao, ça permettait...
Mais quand saviez-vous exactement? Parce qu'on nous l'a tellement dit après, tout ce que l'on ignorait.
Pas grand-chose. Mais ce n'était pas de Mao qu'il s'agissait, il s'agissait de ce qui se passait en France. Le jour où il y avait des affiches chinoises célébrant les révolutions de 68, ça paraissait admirable. C'était pas la vie des partis communistes français ou même des Russes qui étaient tout à fait épouvantés par ce qui se passait, comme vous savez très bien. Donc non, c'est l'expérience personnelle qui était là la priorité. Et puis alors, quand même, les mouvements de libération ont commencé là, dans la société civile. Le front des homosexuels, bon, avant, maintenant. Maintenant, c'est devenu une force d'encadrement, en quelque sorte, du moins dans les grandes villes, pas en province. Bon, mais alors, le féminisme, les femmes, où étaient les femmes, que sont-elles devenues d'ailleurs? Enfin, écoutez, on est de nouveau dans un autre délire, c'est-à-dire quelque chose qui est régressif. Donc, à ce moment-là, ce qui avait lieu antérieurement paraissait tout à coup, mais le Moyen-Âge, entre une fille qui avait 25 ou 30 ans en mai 68 et sa mère, et alors n'en parlons pas sa grand-mère, mais il y avait un abîme qui s'est petit à petit peut-être accorni. Enfin, parce que la société sait comment faire, lâcher du laisse pas trop et même essayer de récupérer par derrière, etc., etc. Voilà. En tout cas, l'aventure personnelle, ça aussi, c'est rentré dans mes livres, tout simplement. Et c'est là.
Et vous dites que vous avez beaucoup choqué des Américains en disant publiquement « Votre souci principal à l'époque était d'être décrit par un dictionnaire chinois, mettons vers 2077 ». Philippe Solaire, c'est écrivain européen d'origine française, voilà, qui très tôt s'est intéressé à la Chine.
Et presque seul. Je connais quelques sinologues et quelques spécialistes de la Chine, mais comme écrivain, je suis désolé, ça ne les intéresse pas. Tant pis.
On rappelle que vous avez découvert de grands écrivains chinois et fait publier en France.
Oui. L'hexagone, c'est quelque chose, comprenez, d'où la révérence, la prosternation pour la marchandise américaine est profondément choquante. Il y a quelques écrivains américains extraordinairement importants, sans parler du passé, Hemingway, Faulkner, le plus important aujourd'hui d'ailleurs, c'est un ami, comme c'est Philip Roth, j'en parle dans un vrai roman, mais enfin, ce qui vous est vendu comme colonisé que vous êtes, comme le roman américain déjà mis en film, c'est en général absolument pas possible. Enfin, c'est très ennuyeux, ça disparaît. Donc, voilà. Et les Français, que vous voulez, ils sont un peu... ça ressurgira peut-être un jour.
Vous y retournez en Chine?
Non.
Vous êtes retourné récemment?
Non. Non.
Vous êtes allé plusieurs fois?
Je préfère pas. Non, une seule fois.
Une seule fois?
Oui, une seule fois. À Shanghai. Je ne reconnaîtrai plus Shanghai aujourd'hui. Certainement pas. Lorsque nous sommes arrivés à Shanghai... Le matin, j'ai compris quelque chose du corps chinois, parce qu'il y avait un type sur un toit qui faisait des Tai Chi Chuan, vous savez, très lentement, tout seul, ne se demandant même pas qui le regardait, tout seul. J'étais là en surplomb, il ne me voyait pas du tout. Ensuite, je descends sur le Bund, il y avait 1000 ou 2500 Chinois, Qui, le matin? Il était 6h30 du matin. Même chose. C'est lent. J'ai fait beaucoup de vélo à Pékin. Évidemment, d'habitude, je suis à Londres, né à ce moment-là. Il y avait très très peu de voyageurs étrangers. Nous sommes en 1974. Très peu. Et donc, au feu rouge, j'étais environné de Chinois très silencieux qui me regardaient comme une bête curieuse, voyez-vous. La seule chose qui les intéressait, c'était de savoir si moi, je voyais la différence avec les Japonais, qui est évidente, mais que la plupart des Occidentaux ne voient pas. Vous voyez la différence entre un Allemand et un Français, peut-être quand même, si vous avez l'œil. Ça les intéressait beaucoup, parce qu'il y avait déjà des Japonais qui venaient, qui revenaient après les massacres considérables. Puis il ne faut pas oublier quand même, ça c'est une chose assez positive, c'est la politique étrangère de De Gaulle, de ce point de vue, n'était pas tout à fait idiote. C'est lui qui, le premier, reconnaît la Chine. Bon, et Malraux, il va voir Mao, tout ça faisait quand même un peu légendaire. Et Mao Tse-tung qui lui dit, parlez-moi de Napoléon. Ben bon, c'était quand même à la fois cocasse et profond.
Mais elle vous attriste, la Chine, aujourd'hui? Vous faites pas le lien avec ce qu'elle est devenue.
Je suis comme vous, je vois que tout le monde est obligé d'en rabattre, qu'on commence par mettre des écharpes blanches du charmant Dalai Lama, et puis de faire le fanfaron devant les Chinois, en leur donnant des leçons, ce qui prouve qu'on n'a rien compris à la façon de faire. Hein. Et je vois qu'après, on se couche, qu'on pose ses conditions, comme ça, à l'ancienne, hein. D'une façon raciste, à peine cachée. Comme si la Chine était un petit pays, vous savez, à qui on va donner des ordres. Mon Dieu, 1,3 milliard, ça va continuer. C'est la première puissance mondiale, vous avez qu'à voir Shanghai ces temps-ci, l'exposition universelle, la leçon à donner au monde entier, les Jeux Olympiques. Eh bien, tout le monde est jaloux, tout le monde est inquiet. Le péril, la Chine m'inquiète. Bah, pas moi. Il faut mettre à l'intérieur maintenant ce qui est dehors, sous forme dure, circulation, grue, pont, poulie, feu, ascenseur, vitres mouillées, alternance des ciels, verre, façade sur les tables, le vin et l'eau. 100 000 aujourd'hui sur la place, la police dit 15 000, voilà son hélicoptère. Le parti donne le même chiffre, un peu plus peut-être. Stupéfaction hostile, fermée. D'ailleurs, où est-ce que ça peut mener? Les ouvriers n'ont pas bougé, rien à faire. Vous ne pouvez pas continuer, camarades, c'est l'impasse. Rien ne peut avancer de cette façon. Et pourtant, elle tourne. Drapeau rouge partout, dans le vent, soleil. Il claque, il fait plus frais. Les immeubles commencent à s'ouvrir. Les bourgeois, sur les balcons, appareillent à l'œil. « Archiviste !» crie le petit qui chante depuis une heure dans son micro usé, tombé à la tâche. « Vaincu, tu dérasses la mort, lié, tué par des lâches. Victoire, c'est toi le plus fort, victoire, c'est toi le plus fort. Ta seule raison, camarade, vengeance, vengeance pour toi, vengeance, vengeance pour toi. » La foule reprend faiblement 20 voix, 30 voix, chant déjà archaïque, mauvais travail, mobilisation vaseuse, nostalgique, avec fond ukrainien, complètement inadapté à la situation concrète. Ils ne connaissent pas le morceau, et pas davantage les autres couplets de l'international. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Il fait très beau maintenant. Les types des premiers rangs sont cachés sous leur rose rouge, avec les portraits plus sombres. Ça fait une belle coulée sous le ciel bleu, avec silence mat entre les slogans. Silence, couloir, avec porte ouverte sur nuit, soufflée d'autrefois. De toute façon, le parti a fait une grosse erreur politique. Gauchiste ou pas, t'as vu le nombre? Oui, mais sans cercueil. Ah, c'est vrai, rien n'est sûr. Tout le monde est étonné, mais quand même, ça doit venir d'assez profond, dans les masses, pour que le truc éclate comme ça en plein jour. Un enterrement petit bourgeois, voilà. Faudrait la classe ouvrière, peut-être. Mais quand même, ils sont là, et bien là, pas ailleurs. Donc, quelque chose demande, demander, redemandera. à être représentée de façon correcte.
Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les
ouais
gens...
Entre ce qui s'est passé en France, convulsion assez rapide, mais transformation profonde de la société, et ce qui se passait en Chine, à savoir déjà depuis 2 ans, 3 ans, la révolution culturelle qui a fait des millions de morts, il n'y a évidemment pas de comparaison possible. Il n'y a pas eu un seul mort, ou il y en a eu un, enfin, il n'y a pas eu d'affrontement extraordinairement violent en 1968. À part le Auvernais, le Pau, etc., il y a eu un défilé que je raconte d'ailleurs au début d'un roman qui s'appelle H. Il y a la dernière manifestation de masse vraie, j'allais dire. Voilà. Donc, aucun rapport. Mais ce qui était malgré tout comparable, c'est le fait d'une insurrection, qu'elle ait été manipulée comme ci ou comme ça, bon, peu importe. L'insurrection, c'est l'insurrection. L'insurrection, ça veut dire, en termes temporels, que vous pouvez vivre en une semaine quelque chose comme 10 ans de votre vie. C'est ce que Walter Benjamin dit à un moment donné, c'est-à-dire que dans tous les mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu, notamment en 1848, les ouvriers ou les autres ont commencé à tirer sur les horloges. C'est-à-dire le temps est autrement réparti. Vous avez la vie, voilà, métro, boulot, dodo, comme on dit, c'est ça, est-ce que ça a vraiment changé? Non, mais avec le temps contraint, le temps du travail, le temps de l'argent qui vous est imposé et auquel vous êtes bien obligé de vous soumettre. Dans les moments comme ça, où en quelque sorte l'autorité a disparu, l'État s'effondre, De Gaulle est parti, il ne rentre pas. On se demande ce qu'il est devenu. Puis brusquement, c'est le renversement, les Champs-Élysées, le drapeau tricolore, on va dire. Bon. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est quand même la vie très, très intense des spectres, le spectral de l'histoire. La société dans le spectral. C'est-à-dire, là, immédiatement, les discours de recouvrement affluent de partout. Donc, De Gaulle, à mon avis, à l'époque, a très bien compris ce qui est arrivé. Déjà, Pompidou était là. Il a démissionné d'ailleurs peu après. Voilà, c'était fini. Alors, si vous voulez qu'on mette des notes, ça c'est ce que j'appelle le politoscope. De Gaulle, dans les placards. Très bon premier placard. Ici, Londres. Il y a 8 personnes avec lui à l'époque. Bon. C'était vraiment raté. Impossible. Après ça, il s'est débrouillé. Deuxième placard, l'Algérie. Ben, sans De Gaulle retournant la situation, alors Dieu sait si ça a créé des problèmes. Enfin bon, d'où des tentatives d'assassinat d'ailleurs. Bon. Et troisième placard, il a compris là qu'il n'était plus inscrit dans le calcul de la marchandise. Et en fait, il n'avait plus qu'à s'en aller. Donc c'est pas mal, c'est bon placard.
Lucide.
Bon placard. Mitterrand, premier placard, désastreux. Deuxième placard, désastreux aussi, ministre de l'Intérieur au moment de la répression en Algérie. Troisième placard, veut surfer sur les événements, n'y arrive que beaucoup plus tard. Pas bon, pas bon.
On reparlera de Mitterrand. Vous ne l'aimiez pas, mais il vous
intéresse. Non, non, c'est pas une question d'amour, c'est une question de précision historique.
C'est bien, mais il vous intéressait comme personnage, on y reviendra.
Ah mais bien entendu, là, depuis, on n'a plus personne, oui.
La seule prière justifiée en ce monde est donc d'avoir une mort à soi. Une fin facile, douce, insensible. Le contraire de celle de Rimbaud, terrible. Le 10 novembre 1891, à 10h du matin, à l'hôpital de la Conception de Marseille. Amputation de la jambe droite, souffrances atroces et constantes, désespoir de quitter la vie au soleil, même si on admet, et pourquoi pas, le témoignage de résignation finale et d'agonie sainte, écrit par sa sœur Isabelle. La momie, lui, s'est arrangée pour avoir une mort de velours. Précaution de tous les côtés, accompagnement palliatif, Égypte by night, garantie catholique, consultation métaphysique uniquement pour voir qu'il n'y a rien à voir, détour vaudou, courage, fermeté, soins de notaire provincial, drogues adéquates, lourd sommeil. Cadavre photographié par le principal magazine de la Confédération et bien mis en page dans sa sérénité supposée en regard de quelques autres cadavres célèbres sur leur lit de mort, Victor Hugo, par exemple. Rien à dire, un travail d'orfèvre. La momie se piquait d'ailleurs d'aimer la poésie. Il a même écrit un certain nombre de vers. « Ne soyons pas cruels, » dit Schlein, « ne les citons pas. » Pour le reste, les mystères de Paris ne datent pas d'aujourd'hui. Une pyramide avertie en vaut quatre, mais je m'égare. L'extinction des rois, des princes, des papes, des présidents, des policiers n'est pas mon sujet. La mort n'est pas mon affaire. Bonjour Jean, bonjour Guillaume. J'essaie seulement d'éclairer un peu l'autre côté tellement interdit et fermé des choses, il serait temps. D'où vient pourtant que la momie, dans l'exhibition de sa mort propriétaire et tranquille, semble à côté de la plaque. C'est en somme qu'il était déjà mort et qu'il ne le savait pas, dit Stein. C'est qu'il espérait découvrir pourquoi il était vivant en mourant enfin, dit-il. Son corps ne lui appartenait pas, dit Stein. Je l'ai vu en souffrir. Les incitations, les inclinations, les excitations venaient de plus loin que lui. Il avait fini par s'en apercevoir. C'était un malin, n'allez pas croire. Il pressentait sa nature de mort en vie. Il en battait même des cils par moments, comme une poupée. C'était drôle. Au fond, il n'arrivait pas à identifier ce qui se mettait à parler parfois en lui, malgré lui. Même chose pour ses plaisirs, demandés à ses maîtresses les plus lucides. À côté, toujours à côté. Il savait bien sûr qu'on l'avait surnommé la momie là-haut, dans les sphères. Ça l'agaçait, ça l'intriguait. Il voulait en avoir le cœur net. Il était prêt à tout pour percer ce mystère, comme si c'était possible. Qu'est-ce qu'il a pu nous fatiguer? Pourquoi suis-je, moi, distinct de mon corps? Eh bien, il l'a forcé, le mystère il a fini, comme les autres, par tomber dedans. Personne ne lui a rien dit. Il s'est joué la comédie tout seul. Adieu, chère ombre.
Philippe Solers, les hommes politiques vous intéressent plus ou moins, ça dépend, pas toujours. Mais Mitterrand, vous dites, je ne l'aimais pas, mais il m'intriguait. Vous en faites un portrait savoureux dans Studio. On l'appelait la momie, vous le rappelez. Pourquoi vous intriguait-il?
Parce qu'il ne savait pas exactement de quoi il était le porteur. Quand je dis la momie, ça veut dire qu'avec le côté sphinx, je n'ai pas pris l'imagerie populaire, la grenouille, etc. Bon, non, non, ça va beaucoup plus loin. Donc, le côté égyptien, ça c'est le préparatif de mort, la façon qu'il avait d'être lui tout en n'étant pas lui en même temps, hein, comme une marionnette, comme quelqu'un qui... Ça, c'était très, très intéressant parce que la plupart des acteurs politiques, bon, bah, écoutez, ils sont à peu près identiques à eux-mêmes. Il n'y a pas grand-chose à voir, si j'ose dire, derrière et en même temps qu'ils apparaissent. Les marionnettes sont là tout à fait classiques. Mitterrand était une marionnette étrange. Et je trouvais tout à fait étonnant qu'à la fin de sa vie, un peu sur mes traces, si j'ose dire, bon, il s'était épris de Venise. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris quoi que ce soit à Venise, parce que ça demande de venir d'ailleurs que d'Égypte, ou de Charente, ce qui revient à peu près au même, au fond. Commencer la lecture de Casanova. Donc, c'est un déjeuner que j'ai déjà rencontré.
Vous l'aviez rencontré, oui, vous êtes allé le retrouver. Alors, il est arrivé droit sur vous, d'ailleurs. Ah, voici le terrible Monsieur Solers. Il avait une fascination pour le milieu littéraire, quand même. C'était un vrai président littéraire.
Oui, enfin... Pour
Gallimard, par exemple, nous sommes aujourd'hui.
Oui, mais il faisait beaucoup semblant. C'est-à-dire qu'il avait des goûts quand même très, très limités. Hein. C'est Chardonne, et quand on lui parle de Malraux, il répond par Drieu-La Rochelle. Donc, tout ça, sans son...
son terroir d'autrefois, oui. C'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant chez Mitterrand, c'était au fond. C'était un homme très lié par sa jeunesse à la droite, voire même à l'extrême droite. Ensuite, c'est la Francisque avec Pétain, quand même, photo à l'appui. Et puis, il devient le candidat de la gauche naturelle. Donc, il y a là une imbrication sous-jacente qui résume en gros l'histoire de ce pays, qui est très étrange, très étrange. Bon, c'est à partir de Mitterrand que le Front National prend son ampleur, etc., etc. C'est le personnage qui montre le mieux toutes les ambiguïtés grises, comme il aimait dire. Il n'y a pas du noir et du blanc, tout est gris. Tout est gris, le chat est gris, dans un pays gris, où les habitants sont gris, et tout ça évolue vers une grisaille de plus en plus permanente. Bon, il aimait beaucoup Gallimard, voilà, il surveillait Gallimard, ce qui prouve qu'il
était... Ça le fascinait, la maison Gallimard, même le lieu où nous sommes.
Oui, bien sûr, l'ordre à la Wehrmacht, en arrivant à Paris, il y a deux endroits à occuper tout de suite, la Banque de France et l'édition Gallimard, et la NRF. Bon, donc, vous voyez, tout ça. Et alors, voilà, il arrive, c'est un déjeuner, oui. Et il arrive et... Hein, voilà, le terrible, parce que ça a l'air, hein, bon, alors. Et puis tout de suite, il m'assoit à côté de lui sur un canapé bas. Et il me prend, vous savez, ça, c'est le geste typique, c'est un geste très, suite de l'étude, très mafia, quoi. Il me prend le bras et il me dit, hein, j'espère que vous faites attention à votre santé. Et donc, il s'était renseigné, je ne sais pas comment, bon. Et j'ai cru qu'il allait m'offrir une boîte de préservatifs, vous comprenez, c'est ça qui était subliminalement, quoi. Après quoi, hein, bon, alors je suis en train de lire les mémoires de Casanova, alors j'ai failli lui dire « Bienvenue au club », voilà. Il y avait là Octavio Paz, poète surréaliste, prix Nobel, du surréalisme au prix Nobel, en effet, les voix du Seigneur sont impénétrables. Et alors, Octavio Paz commence à ronchonner, nous n'aimions pas Casanova. Ah bon, hein, dit Mitterrand, qu'il a écarté après de la conversation complètement. Parce que ça manquait du sens du tragique, dit Paz. Non, en effet, Casanova est peu romantique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, mais qu'est-ce que vous en pensez, hein, comme il n'y a pas un sens du tragique dans cette urgence de la vie. Ça. Et là, il parlait pour lui-même. C'est-à-dire, c'était vraiment vers la fin de sa vie, avec déjà un souci de santé dissimulé considérable. Voilà.
Et
très présidents. Courageux, ouais. Très courageux Mitterrand, parce que quand il m'a décoré de la Légion d'honneur, il était debout, il lisait sans fiche, il souffrait visiblement atrocement, avec son petit truc de palfium dans la poche, etc. Il devait se faire des injections de morphine continuellement. Il était très cireux, très courageux, il fallait faire 10 personnes à la fois, au fur et à mesure. J'étais à côté de Victor Del Lito, par le hasard providentiel, c'est vraiment le grand, grand spécialiste de Stendhal. Et là, il s'est trompé un petit peu dans son discours, m'a crédité d'avoir eu le prix féminin, je n'ai jamais eu le prix féminin, en revanche j'ai écrit un livre qui s'appelle Femme, enfin tout ça se mélangeait un peu dans sa tête. Et après quoi, en m'embrassant, de façon un peu mouillée dans le cou, il m'a dit, ça allait, donc, personnage, voilà, spectre intéressant.
Mitterrand, puis Chirac, aujourd'hui Sarkozy, il vous intéresse ?
Oh ben alors là, écoute, non, ça devient autre chose. Écoutez, Chirac, bon, ça va, on a écouté. Abracadabrantes, tout ça. Plan, on a perdu beaucoup de temps avec tous ces deux présidents. Imaginez-vous quand même que ça fait en tout 7, 14 plus 12, 26 ans. Ça fait 26 ans que la République s'effondre gentiment, comme ça, hein, au point qu'on peut se demander si le mot a encore un sens, puisque la République, l'école, la République, toutes ces grandes valeurs. Et oui, c'est ça.
Mais qu'avez-vous pensé, vous, de tout
ce qui a... Quant à Sarkozy, bon, no comment.
Voilà.
Il faut éradiquer 1968.
C'était ma question.
Le mot éradiquer m'a fait un peu froid dans le dos. Il y avait là des gens bizarres, notamment André Glucksmann, qui était un ami. Je ne sais pas s'il passait par là, justement. Oui.
Pourquoi a-t-il dit ça, à votre avis ?
Sarkozy ? Oh ben ça, c'était son offre d'achat au Front National, par exemple, bien sûr.
Et un saut quand même important.
Avant l'ouverture à gauche.
Voilà.
Mais la gauche était très contre 1968, donc tout le monde peut s'entendre. Voilà, pour régner, on divise en unifiant, on rassemble, voilà. L'esprit a horreur des rassemblements, dit quelque part Céline.
Et puis oui, vous l'avez mentionné d'ailleurs dans le titre d'un de vos livres qui était H, comme vous l'avez dit, mais vous en avez écrit plusieurs sous l'emprise du H à cette époque-là. C'était important cette découverte du H, et si on fait le lien avec d'autres grands écrivains sur les paradis artificiels.
Ce qui est important à un certain moment, ce sont les excès dans tous les... Voulez-vous lire la petite carte, ce qui est écrit sur la petite carte qui vous tend les bras là? Voilà.
Tout est bon, c'était sur votre bibliothèque, hein, je le prends sur un rayon. Voilà. Tout est bon quand il est excessif, signé Marquis de Sade.
Non, alors ça c'est exagéré si on veut, mais il y a une façon de faire avec sa jeunesse qui est dans la dépense ou pas. Moi, il y a des gens qui n'ont jamais été jeunes et je les vois pas rajeunir avec le temps. Autrement dit, c'est des excès. Que ce soit l'alcool, la drogue pour certains, moi je me suis évité de m'abîmer les os avec de la cocaïne, par exemple, parce que ça grand, par exemple. Ouais. Bon, le hashish, c'est rien du tout, vous savez, il y a des herbes un peu colombiennes un peu plus fortes, vous pouvez avoir une transe intéressante, ça révèle surtout beaucoup de choses, voilà. Puis il y a le rire. Le texte de Baudelaire là-dessus est à relire, c'est une merveille. Voilà. Donc, des excès. J'ai passé des nuits ivres, vraiment, très, très, très. Voilà, souvent. Sans parler des bordels ou des choses comme ça, qu'il faut aussi. Où il faut faire son apprentissage universitaire.
Et pourtant, quand on lit votre emploi du temps aujourd'hui, immuable depuis tant d'années.
Là, maintenant, vous voyez bien, je suis un moine taoïste.